lire avec vous plusieurs versets. En tout cas, dans le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, on va naviguer dans ce chapitre qui est riche justement en démonstration de la puissance de Jésus. Et nous croyons encore que eh bien, le Seigneur Jésus, si nous ne le voyons pas physiquement, cet après-midi au milieu de nous, il est là, il est vivant, il est là au milieu de nous par son esprit. Et la puissance qu'il a manifestée dans ce chapitre, il veut la manifester également cet après-midi dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos cœurs. Alors cet après-midi, laissez-le agir. Laissez-le agir véritablement. On lit donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 2, on va lire plusieurs versets, sauter d'autres versets, etc. Alors, attachez vos ceintures, on s'accroche. Voilà, PNC aux portes. Voilà. Verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Verset 17, la fin du verset 17, lorsqu'il est dit, en parlant de Jésus, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Verset 23, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, de démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent. Ils entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Amen. Dans ce chapitre que nous avons rapidement survolé, eh bien, je ne crois pas au hasard, mais en tout cas, Dieu avait prévu que nous puissions eh bien, échanger sur ces quelques miracles qui sont démontrés, qui sont constatés, qui sont relatés dans ce passage. Et nous avons lu pas moins de 5 miracles évidents, manifestes, que Jésus a accomplis. Chacun de ces miracles sont tous différents les uns des autres. Que ce soit dans les personnes bénéficiaires des miracles de Jésus, que ce soit dans les domaines dans lesquels les miracles ont lieu, ou encore les moyens que Jésus va utiliser, ils sont tous différents. Mais en lisant tout ce chapitre, je crois que l'on peut résumer eh bien, toute notre lecture par cette phrase, une parole, un contact de Jésus suffit. Une parole, un contact de Jésus suffit pour changer votre vie. Un contact, une parole de Jésus suffit pour voir le miracle. Seulement, il suffit de venir à lui, de le laisser agir et de le laisser nous toucher, de le laisser nous parler. Le psaume 33, verset 9, nous rappelle ces paroles qu'on connaît bien pour la plupart d'entre nous lorsqu'il est dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Et dans ce chapitre 8 que nous avons survolé, eh bien, nous pouvons voir, constater encore toute l'autorité du Seigneur Jésus face à la maladie, face aux éléments, face même aux démons. Et quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Et là où il n'y a plus la vie, là où il n'y a plus la santé, Jésus ordonne que la vie et la santé prennent place, reprennent sa place, et elle reprend sa place. Nous avons chanté, non par notre force, et toutes les personnes qui ont été bénéficiaires des miracles de Jésus, eh bien, ils ont pu voir cette transformation, non par leur force, mais uniquement par l'autorité et la force qui étaient en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur a l'autorité suffisante et nécessaire pour agir dans votre vie. Quel que soit le domaine dans lequel se situe votre besoin, quelles que soient les sources d'inquiétude et de soucis, le Seigneur Jésus, qui connaît toutes choses de nos cœurs, de nos vies, de nos pensées, a l'autorité pour intervenir et agir efficacement et miraculeusement, comme dans ce texte, comme dans ces textes que nous avons lus. Jésus le dira, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et le pouvoir que Dieu lui a conféré, ce pouvoir, il l'a encore entre ses mains et il a la capacité eh bien, d'agir en chacune de nos vies, quel que soit le problème, quel que soit le besoin, même si personne ne connaît eh bien, le besoin qui est au fond de notre cœur, Jésus, lui, le connaît. Il nous connaît parfaitement, il vous connaît parfaitement. Et il connaissait très bien les personnes eh bien, qui vont être confrontées à lui. Jésus va guérir un lépreux. Il va guérir le serviteur d'un centenier. Il va guérir la belle-mère de Pierre qui avait une forte fièvre. Il va apaiser une tempête. Il va chasser des démons. J'aimerais m'arrêter sur ces trois domaines où Jésus est capable de faire un miracle, également pour nous cet après-midi. Ces trois domaines sont représentés dans ce texte, mais également au travers de notre être en lui-même, qui est composé de trois parties, corps, esprit et âme. Et Jésus est capable d'agir dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Dans chacune de ces parties de notre être, nous pouvons connaître l'épreuve. Nous pouvons connaître des moments difficiles, des moments eh bien, durs, violents, laborieux. Mais le Seigneur a l'autorité pour nous en délivrer, faire un miracle, que ce soit dans notre corps, dans notre esprit ou dans notre âme. La maladie, comme pour ce lépreux, comme pour ce serviteur du centenier ou la belle-mère de Pierre qui était atteinte d'une forte fièvre, l'épreuve eh bien, que plusieurs peuvent vivre dans leur corps de manière physique, et qui atteint la chair, Jésus est capable de faire un miracle. La tempête eh bien, dans laquelle se trouvent Jésus et ses disciples, bien sûr, est une tempête physique, mais je crois également que eh bien, les inquiétudes, les soucis de la vie, parfois, viennent comme une tempête et nous donnent l'impression également d'être ballottés de droite et de gauche, de voir les flots de la mer eh bien, venir s'accumuler contre notre vie, nous pousser, peut-être même nous empêchant de bouger, nous empêchant eh bien, tout mouvement pour nous sortir de cette tempête. Et combien de personnes vivent les tempêtes de la vie, qui viennent accaparer nos pensées, qui viennent accaparer nos forces, qui viennent nous rendre eh bien, complètement inoffensifs et à la merci de ces tempêtes. Peut-être parfois, eh bien, ces angoisses qui sont là, ces souffrances intérieures au plus profond de notre esprit, Jésus aussi est capable de nous en délivrer. À la fin, nous avons vu ce récit de cet homme qui était possédé par un démon, un esprit impur, eh bien, et qui, bien sûr, nous parle cette fois-ci des souffrances que l'on peut vivre d'ordre spirituel au niveau de notre âme. Et Jésus également et surtout dans notre âme, il veut changer nos vies. Il veut changer l'état de notre âme. Il veut nous faire changer de domination. Il ne veut plus que eh bien, l'homme soit sous la domination du diable, sous la domination de ses démons, sous la domination de quelque esprit impur que ce soit. Mais il veut nous en libérer. Il veut nous rendre la liberté et faire de nous, non pas ses esclaves, mais ses amis, ses frères. Et nous pouvons trouver en Jésus non plus seulement qu'un maître, mais un confident, un sauveur, celui qui est venu pour sauver nos âmes. Dans chacune de ces souffrances que nous pouvons connaître à un moment donné dans nos vies, peut-être même que certains cumulent en même temps dans leur vie, Jésus veut encore manifester sa puissance et son autorité. Il veut agir efficacement. Alors, venez à Jésus. Croyez et qu'en venant à lui, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Il y a cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, qui dira « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » La référence est facile à se rappeler, Matthieu 7, 7. Parce qu'on peut demander, chercher et frapper 7 jours sur 7 auprès du Seigneur. On peut venir à lui 7 jours sur 7. Il n'a pas de congé, il n'a pas de RTT, il n'a pas de repos. Il ne prendra de repos que lorsque eh bien, les hommes seront sauvés, lorsqu'ils auront entendu son appel et lorsqu'ils seront venus à lui. Alors oui, nous avons raison cet après-midi de venir à Jésus, de venir à lui et de demander, de chercher et de frapper parce qu'il veut nous donner, il veut que nous puissions trouver et il veut nous ouvrir la porte qui mène au ciel. Les souffrances du corps. Trois exemples ici nous sont donnés de personnes qui eh bien, vivent trois souffrances complètement différentes. Il y a cet homme impur dans sa chair, dans son corps à cause de cette lèpre. Et cet homme qui était là, eh bien, était complètement rejeté de la société. Les lépreux n'avaient pas le droit de s'approcher, d'être au contact de quelque personne que ce soit. Il devait vivre eh bien, complètement en dehors de la ville, il était rejeté. Et ce lépreux, eh bien, qui lui n'avait pas le droit de venir au contact de la foule ou au contact de Jésus, et encore moins de le toucher, cet homme rejeté, oublié, mis de côté, peut-être quelqu'un qui n'avait plus aucune valeur aux yeux des hommes, il va oser venir à Jésus et se prosterner à ses pieds. J'aimerais vous dire qu'aux yeux de Jésus, vous avez de la valeur. Vous avez même une grande, une très grande valeur. Jésus, eh bien, vous regarde avec un regard d'amour et voyant en vous non pas seulement, eh bien, la maladie qui est là, non pas seulement peut-être l'impureté de corps ou de cœur qui pourrait être là, il ne regarde pas en nous seulement les erreurs, eh bien, qui ont peut-être été, que nous avons commises par le passé à tellement de reprises. Le Seigneur Jésus ne regarde pas notre état immédiat. Mais lorsqu'il nous voit, il voit ce que nous pouvons devenir entre ses mains. Lorsque Jésus nous voit, il ne voit pas eh bien, l'état déplorable dans lequel on peut être, mais il voit celui qu'on peut et celle qu'on peut devenir. Et lorsque ce lépreux s'approche de Jésus, Jésus n'est pas en train de dire « ôte-toi de mon chemin, enlève-toi de mes pieds, retourne à l'écart ». Il ne dira pas cela, mais il va voir en cet homme un être qui peut être pur, une vie qui peut être changée, transformée, guérie totalement. Et Jésus, eh bien, va accepter ce contact. Et j'aimerais vous dire que, eh bien, ce lépreux qui va venir à Jésus, il va venir, il va lui dire, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il se soumet malgré tout à la volonté de Dieu, de Jésus. Et Jésus, il veut guérir. Il peut guérir. Mais il veut guérir. Et dans les trois récits de ces guérisons miraculeuses que Jésus opère, nous voyons combien Jésus a la volonté de guérir. Et cet après-midi encore, Jésus a la volonté de guérir. Cet après-midi encore, Jésus qui connaît parfaitement eh bien, votre état de santé, il a la volonté. S'il a le pouvoir et l'autorité, il a également la volonté de vous guérir. Pour cet homme lépreux, il lui dira, « Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur, sois guéri. » Lorsque ce centenier vient à Jésus, il lui dira de la même manière, « J'irai et je le guérirai. Je veux y aller. Je veux aller à sa rencontre. Je veux rentrer à son contact. Je veux le voir parce que je veux changer sa vie. » Et à cette femme, la belle-mère de Pierre qui était couchée, il nous est dit que l'ayant vue, il va venir et il va la toucher. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et parce que nous avons cette valeur, Jésus est venu jusqu'à nous pour manifester sa puissance dans nos vies. Il y a une parabole dans la parole de Dieu que Jésus donnera, qui nous parle, qui nous donne l'image de cette valeur que nous avons aux yeux du Seigneur. Cette parabole de la perle de grand prix. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Dieu est ce marchand qui cherche de belles perles, et il va trouver dans l'homme cette perle de grand prix. Et pour l'acquérir, eh bien, il est prêt à tout sacrifier, à tout donner, à tout laisser, pour eh bien, que ces perles de grand prix lui appartiennent. Nous sommes ces perles. Et il a tout donné, notamment la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, qui avait une grande valeur également à ses yeux, mais qui, par amour pour nous, va accepter d'offrir son Fils, va accepter de laisser les hommes, qui pourtant ont de la valeur à ses yeux, laisser eh bien, les hommes faire du mal à son Fils, le torturer et le placer sur cette croix jusqu'à ce que la mort vienne. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Ne doutez pas de l'amour du Seigneur, mais recevez-le, parce que vous avez de la valeur à ses yeux. Ce centenier, il vient auprès du Seigneur Jésus, mais ce n'est pas lui qui est malade, c'est son serviteur. Si le lépreux vient et fait cette requête, cette prière au Seigneur pour obtenir pour lui-même la guérison, le centenier vient avec cette prière d'intercession, cette prière en faveur de son serviteur qui est au bord de la mort, qui a de grandes souffrances. Et cet homme qui est complètement étranger des habitudes, des traditions, des croyances juives, il a une certitude dans son cœur. Il sait que Jésus est capable de guérir. Il sait que Jésus, s'il vient à Jésus, il sait que Jésus va guérir son serviteur. Et vous savez, des fois, on est là et on dit « Approchez-vous, on va prier pour vous et croyez que Jésus peut vous guérir. » Je vous l'en, on aura un moment pour prier pour les malades. Mais croyez que Jésus va vous guérir. Que Jésus, eh bien, va manifester sa grâce. Ayez cette certitude, cette conviction profonde dans votre cœur que ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Que ce que vous ne pouvez pas faire, ce que le médecin ne peut pas faire, Jésus, il est capable de le faire. Il est capable de guérir toutes les maladies. Il est capable de guérir à distance. La distance n'est pas une limite, n'est pas une borne, n'est pas une barrière pour Jésus. Et cet homme vient à Jésus, et, ayant cette conviction dans son cœur, et eh bien, il sait que Jésus peut le guérir, et il sait même qu'un seul mot de Jésus est suffisant. Il le dira, seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Seulement un seul mot, seulement un mot, dis un mot, celui qui te semblera bon, celui qui te semblera adapté à la situation, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et parfois, on est là et on croit, un petit peu comme Naaman, qui croyait que le prophète allait venir agiter sa main sur la place publique, dire je ne sais pas quelle incantation, etc. Il faut que ce soit telle personne qui me touche et m'impose les mains, il faut que j'entende telle prédication. Non, non. Parole de Dieu est suffisante. Seigneur Jésus est là présent. Et ce n'est pas un homme qui guérit. Ce n'est pas eh bien, seulement par nos mots que les vies peuvent être transformées, mais c'est par l'action de l'Esprit dans les cœurs. C'est seulement par eh bien, un mot ou une touche de Jésus que votre maladie peut être guérie. Et cet homme le croit. Cet homme a cette conviction. Et il va croire et Jésus va guérir. Jésus guérira et il verra qu'alors même, il va constater qu'au moment même où Jésus lui a dit d'aller et qu'il en soit fait selon ta foi, son serviteur a été guéri. Et puis il y a la belle-mère de Pierre qui est malade, qui est atteinte d'une forte fièvre. Et là, dans ce cas précis, Jésus vient au contact du malade, mais personne ne demande rien à Jésus. Personne lui dit « Est-ce que tu peux prier pour cette femme ?» Même Pierre, je ne sais pas s'il y avait de l'eau dans le gaz avec sa belle-mère, mais même Pierre, il ne demande pas à Jésus « Est-ce que tu peux prier ?» Allez, bon, allez, quand même une petite prière, s'il te plaît, c'est ma belle-mère, mais moi j'aime bien ma belle-mère. Personne demande à Jésus d'agir. Personne eh bien, demande et invite Jésus à venir toucher cette femme. Mais ce n'est pas parce que personne demande à Jésus d'agir que Jésus ne voit pas les problèmes. que Jésus ne voit pas la détresse dans laquelle on peut être. Et Jésus va venir au contact de cette femme qui avait une grande fièvre au point eh bien, qu'elle reste allongée. Il y a des épidémies de grippe. Qui n'a pas été, parce que si on dit qui a été touché, on aura dû. Qui n'a pas été touché par la grippe ? Eh, quand même, hein ? Non, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on dit non, je t'embrasse pas, je suis malade. Bon. Alors on a l'impression que. Il y a combien ? 40 000 habitants à Gap ? À peu près ? Et on a l'impression qu'il y a 40 000 grippés. C'est vrai, hein ? C'est incroyable. Il y a une épidémie, c'est extraordinaire. Mais dans ces grippes, et j'ai été touché aussi, hein ? Et dans ces grippes, ce qui nous cloue au lit, ce n'est pas encore forcément la toux, ce n'est pas encore forcément les courbatures, ou le nez qui coule, ou les maux de tête. Mais ce qui nous cloue au lit, ce qui nous met au lit, ce qui nous fatigue, c'est la fièvre. C'est terrible la fièvre. Hein ? Quelques degrés en plus, et on a l'impression, surtout nous les hommes, hein, on a l'impression qu'on va mourir. C'est vrai, hein ? Je vais mourir. Alors j'ai essayé de me contenir hein, pendant ma grippe et de souffrir tout seul dans mon coin sans rien dire. Et oui, la fièvre, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est peu de choses et que quelques degrés en plus suffisent pour nous mettre à plat et nous laisser dans le lit. Et cette femme, je ne sais pas si c'était une grippe, hein, mais en tout cas, sa fièvre était tellement importante qu'elle était là, couchée dans ce lit. Et Jésus va venir sans que personne lui demande rien, et il va venir toucher cette femme, va venir à son contact. Cela m'a rappelé ce moment où, eh bien, dans cette ville de Naïn, il y a un cortège funèbre. Une femme met en terre, une veuve met en terre son fils unique. Elle se retrouve toute seule, elle a tout perdu. Et les larmes coulent le long de ses joues. Et on peut aisément imaginer la douleur de cette femme. Mais Jésus, personne ne l'invite à s'approcher de ce cortège. Mais Jésus voit la détresse. Et il va venir, il va toucher le cercueil. Il va ordonner à ce mort de se lever, de reprendre vie. Et ce qu'il dit, eh bien, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il veut vous guérir dans tous les problèmes physiques que vous pourriez rencontrer. Ayez foi dans le Seigneur et laissez-le agir par une parole, par un contact puissant de Jésus. Que vous soyez loin, près, étranger, complètement, peut-être même ignorant des choses spirituelles, des choses de Dieu, simplement, ayez foi en Dieu. Croyez, simplement, ayez cette conviction dans votre cœur que Jésus a l'autorité suffisante et nécessaire pour agir puissamment dans votre vie. Et puis, si on peut connaître des souffrances dans le corps, on peut également connaître parfois des souffrances intérieures, des souffrances dans notre esprit, tellement aujourd'hui de dépression, de personnes qui tentent de se suicider. Et je crois que la France est dans le top 10 ou 3, ou je ne sais pas quoi, ou même top 1, hein, des consommateurs d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Et quand on voit les situations que certains peuvent rencontrer et vivre, on peut parfois comprendre eh bien, leur détresse, et peut-être pas comprendre, mais eh bien, essayer d'imaginer toutes les souffrances intérieures qu'ils peuvent vivre. Et dans ces souffrances intérieures, l'esprit est rempli d'inquiétudes et de soucis. On a lu ce passage où les disciples, c'est vrai, se retrouvent dans une tempête. Et parfois, les épreuves de la vie sont comme ces tempêtes violentes qui déferlent dans nos vies. Je crois qu'on a tous vécu ces moments où ces épreuves, ces tempêtes se jettent sur nous. Et dans ces cas-là, on a vite fait de s'inquiéter, n'est-ce pas ? On a vite fait de réfléchir, d'imaginer, et bien mal nous prend, mais souvent nous imaginons le pire, ce qui vient nous donner encore plus de sources d'inquiétude. Combien de nuits blanches, combien de journées tourmentées. Et pourtant, Jésus dira, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Alors bien sûr, on est humain, et lorsqu'on est inquiet face aux situations, on peut le comprendre. Mais au-delà, bien sûr, et on ne va pas vous dire, bien sûr, c'est impossible de s'inquiéter. On ne veut pas non plus croire en cette politique de l'autruche qui est de cacher sa tête dans le sable et de penser que, eh bien, sans regarder l'épreuve, elle va disparaître toute seule. Non, non. Mais je crois que surtout, c'est qu'il est question de mettre notre confiance dans le Seigneur, de regarder à Jésus, et comme il a été dit, quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. C'est pas marqué, on est rayonnant de joie seulement quand tout va bien, mais quand on tourne nos regards vers lui, même si, eh bien, la tempête est là. Et c'est ça le miracle du Seigneur également. Il met la joie dans nos cœurs. Il met la paix dans nos cœurs. Dans cette barque se trouvent les disciples et Jésus. Ça fait déjà plus d'un an que les disciples accompagnent Jésus et ils ont tellement vu le Seigneur agir dans des situations qui leur semblaient perdues d'avance. Et alors qu'eux-mêmes vivent, eh bien, une tempête, une épreuve qui leur semble perdue d'avance, ils ne remarquent même pas que Jésus est auprès d'eux. Ils ne remarquent même pas que Jésus est là et que lui, eh bien, n'a pas peur. Et qu'au contraire, il dort. Sur les 12, pas un n'émettra l'idée que peut-être si Jésus dort, c'est parce que nous n'avons pas de crainte à avoir. Vous savez, lorsque, eh bien, il y a un souci, une épreuve, et que plusieurs vivent cette épreuve, il suffit d'une seule personne qui montre de l'assurance, qui montre de la paix pour rassurer beaucoup de personnes. Vous avez remarqué? Et là, il ne constate, il ne regarde même pas Jésus, qui lui est en paix, qui lui sait qu'il ne leur arrivera rien puisqu'il est dans la barque. Et quand nous vivons une situation difficile, eh bien, au lieu de regarder à cette tempête, comme les disciples ont pu le faire, accaparés par la peur de mourir, de couler ou de tout perdre, eh bien, regardons à Jésus, qui lui est là près de nous. Jésus fera cette promesse, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et là, les disciples dans la barque, ils n'entendent pas la voix de Jésus puisqu'il dort. Mais il est présent. Jésus est tout près de vous. Peut-être que vous ne l'entendez pas. Peut-être que vous ne ressentez pas sa présence. Malgré tout, Jésus est là. Jésus est près de vous. Et si vous lui faites confiance véritablement, bien sûr en ayant du courage dans les épreuves, mais en avançant, confiant dans le Seigneur saura mettre la paix dans nos cœurs. Et si, bien sûr, eh bien, l'épreuve est trop grande, alors oui, nous avons raison de crier à Jésus. Oui, nous avons raison d'appeler à l'aide, d'appeler au secours. Et lui, eh bien, il va venir, il va apporter le calme. Il va apporter la paix. Il va calmer la tempête. On a parlé avec les jeunes hier, cette parabole des deux fondements et des deux constructeurs. Je peux en parler ? J'ai le droit ? Ouais, je peux. Ces deux constructeurs qui vont construire leur maison sur deux fondements différents. Et il est parlé de celui qui construit sa maison sur le roc et celui qui construit sa maison sur le sable. Celui qui construit sa maison sur le roc, il est semblable à un homme prudent. Celui qui construit sa maison sur le sable, il nous est dit qu'il est semblable à un insensé. Mais que ce soit l'homme prudent ou l'homme insensé, tous deux vivent la même épreuve. Tous deux vivent la même tempête. Que l'on soit prêt, que l'on croit au Seigneur ou pas, nous connaîtrons des tempêtes. Mais ce qui fera la différence, ce n'est pas, eh bien, les matériaux ou la beauté de la maison que nous aurons construite, c'est-à-dire la beauté de notre vie, peut-être même que plusieurs pourraient envier. Ce qui va faire la différence, c'est le fondement sur lequel on a bâti. Ce qui va faire la différence, c'est sur qui nous bâtirons notre vie, sur qui nous édifierons notre vie, l'édifice de notre vie. Et cette maison qui était bâtie sur le sable, elle pouvait être aussi belle que cela était possible. Quand la tempête est venue, elle est tombée. La ruine a été grande. Mais pour celui qui avait fait confiance dans le Seigneur, qui avait bâti sur le roc, qui avait bâti sa vie sur Jésus-Christ, ayant confiance en Jésus, la tempête est venue. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a résisté. La maison est restée debout. Et parfois, on a l'impression, dans les tempêtes que l'on vit, qu'on est à plat par terre, qu'on s'est écroulé, qu'on n'a pas eu la force nécessaire, eh bien, pour rester debout. J'aimerais vous dire que si on reste confiant dans le Seigneur nous donnera la force de rester debout face aux tempêtes. face à toutes les tempêtes qui font rage dans nos vies, qui peuvent déferler même avec violence dans nos vies, le Seigneur veut être ce fondement qui nous permettra de rester debout malgré tout. Et puis, je termine avec ce troisième domaine dans lequel le Seigneur est capable d'agir et dans lequel il veut agir. S'il veut agir dans nos corps et dans notre esprit, il veut agir également dans notre âme. Il y a cet homme, et ce même récit est donné notamment dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Et on voit cet homme qui est possédé d'un esprit impur, ce démoniaque, qui, est complètement irraisonné, insensé, rempli de folie à cause de cet esprit. Il vit nu dans les cimetières, les sépulcres sont là, sa maison, et il développe une force tellement importante que nul n'a pu trouver le moyen de le contenir, de le canaliser. Et même, il va se mutiler, se faisant du mal dans sa propre chair à cause de cette domination du diable sur sa vie. Et ce n'est pas un démon, mais c'est une légion de démons qui est là, qui habite l'âme de cet homme. Et Jésus va manifester son autorité. Il dira à cette légion de démons, à cet esprit impur, « Sors de cet homme, esprit impur. » La volonté du Seigneur, c'est de nous retirer de ce joug que le diable veut mettre sur nos vies. La volonté de Dieu, c'est de ne pas nous laisser dans la servitude et dans l'esclavage, parce que cet homme était esclave de ces démons qui l'habitaient. Cet homme n'était plus maître de lui-même. Il ne pouvait pas vivre avec sa famille. Il ne pouvait pas mener une vie normale. Mais il était destiné à être rejeté, montré du doigt, peut-être que les gens changeaient de trottoir lorsqu'il passait non loin de lui. Et il était là tout seul, abandonné. Mais Jésus ne va pas l'abandonner. Jésus va venir et il va délivrer son âme. Si Jésus peut agir dans le corps, dans les esprits, le Seigneur a toute l'autorité pour agir dans le domaine invisible, dans le domaine spirituel. Le désir du Seigneur et sa volonté, c'est de nous retirer de l'esclavage, du péché, de cette mainmise que le diable pourrait avoir sur notre vie. Parce que si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, si notre vie n'est pas ancrée en Jésus, si nous ne faisons pas de Jésus notre Sauveur, si nous ne faisons pas de Jésus notre Seigneur, alors notre Maître, c'est le prince de ce monde, c'est le diable. Et sous une impression de liberté, nous restons esclaves du péché. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu, pour nous libérer et libérer nos âmes. L'apôtre Paul pourra dire aux Galates, chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Être affranchi, être cet esclave qui reçoit la liberté. Et pour la majorité d'entre nous, nous avons fait cette expérience d'affranchissement. Nous qui étions esclaves, nous avons été libérés par l'œuvre de Jésus à la croix. Et lorsqu'il est entré dans notre vie, alors il a balayé. Et comme on l'a dit hier, il a dégagé le diable. Il l'a mis dehors parce qu'il a l'autorité de le faire et parce qu'il a la volonté de le faire. Ne restez pas, sous l'emprise du péché. Peut-être qu'en pensant être libre et mener votre vie comme bon vous semble, mais si vous n'êtes pas en Jésus, vous êtes esclave du péché. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous dit la Bible. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Votre liberté, notre liberté, elle a été acquise par Jésus à la croix. Notre liberté, la liberté de notre âme, notre liberté spirituelle, elle a été acquise par Jésus à la croix. Paul dira aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, « Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Jésus a tout vaincu à la croix. Jésus a tout obtenu pour notre liberté, pour notre affranchissement. Croyez, ayez foi en Jésus. Ayez cette conviction également. Eh bien, que votre âme peut être délivrée, que votre âme peut connaître une action puissante du Seigneur Jésus. Croyez que dans les souffrances intérieures, ce sont les vôtres. Croyez que dans votre esprit, Jésus peut faire une œuvre miraculeuse, apportant la paix, apportant le calme dans vos tempêtes. Croyez que dans chacune des souffrances physiques que vous pouvez connaître, Jésus peut et veut vous guérir maintenant et qu'il va le faire. Amen. On ferme nos yeux un moment, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci encore pour ces expériences, ces situations que nous avons survolées et qui nous parlent de combien, eh bien, ton action n'est pas limitée dans un domaine précis, que ton action n'est pas limitée et restreinte à peut-être une élite ou à certaines personnes en particulier, mais ton action, ta bénédiction, tes miracles, ils veulent se répandre, Seigneur, dans la vie de chaque homme et chaque femme. Ils veulent se manifester, Seigneur, eh bien, dans la vie de tous ceux qui croiront en toi, tous ceux qui auront ce désir d'entrer en contact avec toi, tous ceux qui auront ce désir, eh bien, de laisser ta parole, une parole, juste un mot de ta part agir dans leur vie. Seigneur, que ce soit pour les souffrances physiques, que ce soit pour des souffrances intérieures, mais également peut-être pour des souffrances de l'âme, souffrances spirituelles, à cause et surtout à cause du péché, tu es capable, par un mot, par un contact, il te suffit d'agir. Tu as la capacité d'agir en profondeur, parfaitement, miraculeusement. Et je te bénis parce que cela, tu ne l'acquiers pas que maintenant, cet après-midi, mais tu l'as acquis il y a plus de 2000 ans à la croix. Là, à Golgotha, oui, Seigneur, tu as porté nos maladies. Oui, Seigneur, et nous l'avons lu, cette parole que Jésus donnera, eh bien, au travers du prophète Isaïe, que tu t'es chargé de nos maladies, que tu as porté nos souffrances. Et nous voulons, eh bien, nous rappeler également de ce que Isaïe dira, que c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Guérison de l'âme, guérison du cœur, guérison de l'esprit, guérison du corps. Seigneur, fais le miracle. Nous gardons les yeux fermés un moment, s'il vous plaît. Et nous voulons repasser dans notre cœur encore ces paroles, croyant qu'elles sont pour nous, qu'elle est pour moi. Et j'aimerais peut-être laisser la possibilité peut-être à quelqu'un qui veut vivre cette liberté, cette libération, cet affranchissement. Ne plus être sous le joug, eh bien, et sous l'esclavage, eh bien, du diable, du prince de ce monde, de celui qui nous veut que du mal, celui qui est le père du mensonge, qui nous donne l'impression d'être libre, mais qui nous rend esclaves. Et vous qui peut-être prenez conscience de cela et qui désirez vivre cette libération et changer de maître, vous approcher du Seigneur et confier votre vie à Jésus. Je vous inviterai à lever la main où vous êtes, qui est un signe de foi devant le Seigneur, et Jésus qui voit toutes choses, eh bien, vous accueille dans sa présence et fait de vous son enfant. S'il y a ce désir dans votre cœur, levez maintenant votre main et nous allons prier. Vous pouvez baisser la main, vous pouvez baisser la main, oui, vous pouvez baisser la main. Dieu vous bénisse. Dieu voit votre courage et ce pas de foi que vous faites. Engagement à le suivre. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui ont levé la main, Seigneur, et je crois, Seigneur, que ce n'est pas demain que tu vas agir, mais que tu agis déjà maintenant. Et que, Seigneur, au moment où ils ont levé cette main, Seigneur, eh bien, toi, il y a une grande joie dans le ciel. Seigneur, parce que, eh bien, il y a des personnes qui sont passées de la mort à la vie. Et parce que, Seigneur, tu fais d'eux, Seigneur, tes enfants. Tu fais d'eux tes fils et tes filles. Seigneur, merci de les bénir, de les encourager. Et Seigneur, que plus rien, Seigneur, ne soit un obstacle, Seigneur, et que rien ne les ramène à cette vie d'esclavage, Seigneur. Mais qu'à partir de ce jour, Seigneur, que les choses anciennes restent passées et que toutes choses, eh bien, soient nouvelles à partir de maintenant. Amen.